Cléa Salamé, votre invitée ce matin, est l'ancien chef de la communication de l'Élysée sous François Hollande et aujourd'hui à la tête d'une société de stratégie en communication.
Oui, c'est ça. Bonjour Gaspard Ganzer.
Bonjour Cléa Salamé.
Le grand enjeu de la France, c'est de sortir de l'insignifiance qui règne depuis 30 ans, dit Emmanuel Macron dans ce grand entretien donné à la NRF, à la Nouvelle Revue Française. Il a raison, ça fait 30 ans qu'on vivote dans l'insignifiance et Emmanuel Macron serait l'homme qui nous en sort, qui vient donner du signifiant dans tout ça.
Je pense que le propre de tout président de la République, c'est de penser que l'histoire commence avec lui et qu'il n'a pas eu de prédécesseur. Je pense que, même si on voit ce qu'il veut dire, parce que je pense qu'il met beaucoup de conscience et d'action dans sa tâche, je crois que c'est assez faux de considérer qu'il ne s'est rien passé dans ce pays et que notre pays n'a plus de place depuis 30 ans.
Il dit encore, du point de vue du système politique traditionnel, je suis une aberration, mais en réalité, je ne suis que l'émanation du goût du peuple français pour le romanesque. Là aussi, il a raison ou il est un peu dans la démesure, là?
Ce que j'aime avec ce président, c'est qu'il aime les lettres et qu'il aime le roman. Moi aussi, je suis passionné de littérature, donc je ne peux que saluer cet amour des lettres françaises sous toutes ses formes, même si on ne partage pas forcément les mêmes auteurs de référence.
Oui, c'est vrai, lui, il cite Giono, Giraudoux, Colette, Camus.
Il préfère les auteurs morts, oui, visiblement.
Il n'a pas cité un seul auteur vivant, seul auteur contemporain.
Oui, ça m'a étonné. Il a cité Jean d'Ormesson, qui est le mort le plus récent,
non,
on va dire.
C'était dans la question.
Mais moi, c'est vrai que je préfère lire Philippe Lançon, qui était à ce micro il y a quelques semaines, Virginie Despentes, ou encore Michel Houellebecq, avec qui il avait fait d'ailleurs un entretien pendant
aux Inrocks,
quand il était à Bercy. Non, derrière cela, qu'est-ce qu'il veut dire? Certainement qu'il y a un goût de l'aventure chez lui, une audace qui est presque romanesque. Vous savez, il avait déposé sur son bureau Le Rouge et le Noir de Stendhal quand il a fait sa photo officielle. Je pense qu'il aime cette littérature-là et peut-être que parfois il s'identifie. J'espère juste pour lui que ça se terminera de façon moins dramatique que dans l'œuvre de Stendhal. Mais derrière, il y a du romanesque, mais il y a surtout de la raison. C'est la raison d'être de la démocratie d'ailleurs. Il y a des électeurs qui votent pour un programme, ils le revendiquent d'ailleurs très souvent. Et ce qu'ils veulent, c'est que les engagements pris soient tenus.
Vous avez entendu Thomas Legrand, son édito, vous dites « ce que j'aime dans ce président, c'est qu'il aime les lettres et le roman ». Où est sa grande politique culturelle? Où est le Malraux de Macron? Vous la voyez, vous, la politique culturelle?
Alors pour l'instant, on peut pas considérer que ça soit la priorité de son quinquennat. Ça viendra peut-être dans la deuxième partie du quinquennat. On n'est né qu'à la première année, donc laissons-lui le bénéfice du doute sur les quatre prochaines années. Il a une ministre de la Culture qui est une très grande éditrice, Françoise Nyssen, qui doit maintenant se révéler en tant que ministre de la Culture. Moi, il y a une chose qu'ils ont mis sur...
C'est-à-dire au bout d'un an...
Pour l'instant, on n'a pas vu énormément de choses. On a vu quelque chose de très bien sur la lecture publique, parce que je crois qu'ils veulent faire un grand plan sur la lecture publique, les bibliothèques, ouvrir toutes les bibliothèques le dimanche. Et moi, je trouve que c'est une très très bonne idée. Après, il y a plein d'autres sujets à aborder. Ils vont aborder la question de l'audiovisuel prochainement. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais on a entendu dire qu'ils voulaient que le président, ou en tout cas le conseil d'administration, nomme directement les présidents de l'audiovisuel public.
C'est une bonne chose ?
Moi, personnellement, j'y suis totalement hostile. Je pense que dans l'audiovisuel public, ce ne sont pas des entreprises comme les autres et il faut que les dirigeants soient nommés de façon indépendante.
Il dit encore dans la NRF que la technicisation de la politique est un rétrécissement. La technicisation de la politique est un rétrécissement. En même temps, on le voit avec Françoise Nyssen, mais avec tous les autres, il ne nomme que des ministres techniciens, technos, des ministres qui ont du mal à imprimer, qui ont du mal à sortir de leur dossier. Est-ce que c'est pas paradoxal de dénoncer la technicisation de la politique et de ne nommer que des techniciens au gouvernement ?
Il y a certainement un paradoxe. Après, il n'y a pas que des techniciens dans ce gouvernement. C'est bien qu'il y ait des personnes de la société civile. Moi, personnellement, j'étais favorable depuis longtemps à ce qu'on nomme plus de personnalités qui n'étaient pas des anciens apparatchiks, des anciens militants de syndicats étudiants ou des personnalités qui n'avaient jamais travaillé de leur vie. Donc je pense que c'est plutôt bien d'avoir des gens de la société civile. Après, il faut les équilibrer avec de la volonté politique. Et derrière, il y a toujours le regard des citoyens, parce que c'est ça le plus important.
Il théorise aussi sa gestion du pouvoir, affirmant assumer totalement la verticalité du pouvoir. Il a, selon vous, Emmanuel Macron, rétabli l'autorité présidentielle, l'incarnation presque monarchique de ce pouvoir?
Je vous vois venir. Mais ce que j'aime bien dans cette présidence-là, c'est sûr, c'est qu'il y a une forte incarnation, une bonne verticalité du pouvoir.
Par rapport à la précédente.
C'est ce que j'avais voulu venir.
Peut-être
François Hollande voulait être un président normal, donc il voulait pas être un président monarchique. Je pense que c'est bien de rétablir de la verticalité. En même temps, comme dit le président de la République actuelle. Je crois que derrière La République En Marche, derrière Emmanuel Macron, il y avait aussi la promesse d'une plus grande démocratie. Et je pense que rien ne serait pire que d'abandonner cette promesse de renouvellement de la vie politique, de faire de la politique autrement, de façon plus horizontale, en donnant la parole régulièrement aux citoyens. Parce que je pense que les gens attendent de la verticalité, mais ils attendent aussi beaucoup de démocratie et de contre-pouvoir.
C'est étonnant ce que vous dites, parce que François Hollande, à ce micro, il y a quelques semaines, nous a dit un peu la même chose. Il pense qu'il y a une menace pour la démocratie et pour la presse aujourd'hui.
Menace, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut une vigilance. Vigilance vis-à-vis des contre-pouvoirs, que sont les médias, que sont les corps intermédiaires, les syndicats notamment, et que sont les juges, bien évidemment.
Vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron les méprise ?
Non, je ne pense pas qu'il les méprise. On lui a attribué des propos sur l'audiovisuel public. J'espère qu'ils étaient faux, parce que honnêtement, ils étaient choquants. Pour le reste, pour l'instant, j'ai rien vu de choquant dans le rapport à la justice, ni dans le rapport au syndicat directement venant de lui. Donc c'est tant mieux. Après, j'ai pas l'impression que la priorité, ça soit la protection des contre-pouvoirs. Je pense que la priorité, c'est l'action, les réformes. Et c'est bien aussi... Parce que les Français attendent aussi qu'on fasse ce qu'on a dit. Et là, pour le coup, on peut reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron, mais certainement pas de ne pas faire ce qu'il a dit.
Vous le connaissez depuis longtemps, vous étiez dans la même promo à l'ENA. Vous dites ce qui est stupéfiant avec Emmanuel Macron, c'est qu'il ne doute jamais de rien. C'est une force ou une faiblesse, ça ?
Vous avez bien vu que dans cette phrase, il y a deux interprétations possibles. Je pense que c'est une force pour réussir en politique. Après, moi, je passe ma vie à douter, à m'interroger sur moi-même, et je ne suis pas persuadé d'avoir la vérité suprême sous le bras. Je ne dis pas que c'est son cas aussi, mais en tout cas, l'impression qu'il donne, c'est celle d'une très forte résolution qui lui a permis, il faut le reconnaître, d'accéder à un âge très jeune, aux plus hautes fonctions de l'État.
Il avait théorisé la rareté de la parole en arrivant à l'Élysée, mais alors là, depuis quelques semaines, il ne fait que parler. Pernaud, Bourdin, Plenel, Fox News, la NRF, il choisit ses médias, il choisit ses journalistes et il parle beaucoup, beaucoup. Est-ce que c'est trop ou non ?
Moi, je pense qu'il a raison de parler régulièrement. La question, c'est parce qu'il ne l'a pas assez fait, je pense, au début. La question, c'est pas est-ce qu'il parle trop ou pas assez, c'est est-ce qu'il a des choses à dire. Moi, j'ai travaillé longtemps avec Bertrand Delanoë, le maire de Paris, et il me disait « je ne prendrai la parole que si j'ai quelque chose à dire aux Parisiens ». Et bien, je pense que ça va être la même logique pour Emmanuel Macron. Il faut parler quand il a des choses à dire.
Il y en a un autre qui parle beaucoup en ce moment. Écoutez.
Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez ?
Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches.
Vous avez ma réponse.
Mais ceux qui ont vraiment de la fortune, ceux qui ont détenu, soit par héritage, soit par leur propre activité, des capitaux très importants, ceux-là ne payent plus l'impôt sur la fortune. Et quand ils vont avoir le revenu du capital, il va être fiscalisé à 30%, quand ceux qui sont dans le travail peuvent être fiscalisés jusqu'à 45%.
Il est le président des très très riches, a dit François Hollande. Comment vous avez réagi, Gaspard Ganzer, quand vous l'avez entendu dire ça à quotidien ?
J'ai reconnu le sens de l'humour de François Hollande.
Non, c'était pas de l'humour.
Mais pour moi, en tout cas, c'est d'une boutade pour me sortir de cette question. Parce qu'en fait, quelque part, je pense qu'ils ont visiblement, Emmanuel Macron et François Hollande, des choses à régler entre eux. Enfin, ils s'envoient des pics par médias interposés, directement ou indirectement.
C'est quoi ? C'est de l'amertume ? C'est d'un goût de la revanche ? Vous le connaissez trop bien pour...
Je pense que des deux côtés, honnêtement, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Il faudrait qu'ils se parlent, ces deux personnes-là. Parce que c'est vrai que je crois qu'ils ne se sont pas tout dit, l'un comme l'autre. Moi, personnellement, j'ai de l'amitié pour Emmanuel Macron comme pour François Hollande. J'ai travaillé avec l'un et aux côtés de l'autre à un autre moment.
Pourquoi vous ne faites pas la médiation ?
Parce que j'ai autre chose à faire. Moi, j'ai créé une entreprise. J'enseigne à Sciences Po. Je suis à ce micro-là et j'ai retrouvé ma liberté de parole et mon indépendance. Ce n'est pas pour jouer les médiateurs entre eux.
Et vous avez dit un jour, je finirai par faire de la politique. Si par exemple, Gaspard Ganzer, par exemple, La République En Marche vous proposait l'investiture à Paris, vous seriez content ?
Je serais content de pouvoir m'intéresser à Paris parce que c'est la ville dans laquelle je suis né, j'ai grandi, pour laquelle j'ai travaillé pendant de nombreuses années pour Bertrand Delanoë. En revanche, moi je ne réfléchis plus avec des étiquettes politiques, que ce soit le Parti Socialiste, les Républicains, le Modem ou La République En Marche.
Donc ça pourrait être La République En Marche ?
Non, je crois qu'il ne faut pas réfléchir à partir des appareils politiques. La République En Marche est un parti politique. Et moi, je pense que les Parisiens, comme les Bordelais ou les gens capitalistes, qui veulent, c'est créer leur propre mouvement citoyen.
Merci Gaspard Ganzer.
Merci beaucoup à vous.
Belle journée à vous.
Merci Léa et à tout à l'heure.